Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est Maître Alexis Baudouin. Alexis est avocat depuis 2001 et il exerce aujourd'hui au barreau de Poitiers après avoir commencé sa carrière au barreau de Paris. Il est associé du cabinet Ten France et pratique plus particulièrement le contentieux civil et commercial ainsi que le droit de la propriété intellectuelle. C'est sa collaboratrice, Maître Sandrine Adria Manankaja, qui me l'a recommandée et je la remercie. J'en profite pour vous dire que Alexis, quand j'ai réalisé cette interview, donc c'était à Noël, était en plein recrutement de deux collaborateurs ou collaboratrices de 3 ou 4 ans d'expérience minimum en contentieux commercial. Donc si une aventure de collaboration à Poitiers peut vous intéresser, eh bien c'est le moment de postuler. Et vous avez donc son email bien évidemment en note de l'épisode. Je remercie Nemo Auditour, Estelle R, Willow Ri ainsi que Yoel A pour les avis et les étoiles laissées sur Apple Podcast. Vraiment un grand merci et je vous invite tous à prendre quelques minutes pour laisser un avis à votre tour parce que c'est top pour moi et pour mes algorithmes, ça fait connaître le podcast donc c'est formidable. Yoel A nous dit que c'est totalement inspirant, que les interviews sont toujours d'une justesse incroyable et que c'est enfin un podcast qui permet de entendre des avocats honnêtes, sincères et mesurés qui mettent en avant toutes les facettes de la profession, les bonnes comme les mauvaises, et ils recommandent fortement. Donc à vous de laisser un mot sur ce que vous pensez du podcast. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Alexis Baudouin.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat.
Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Alors Alexis, racontez-moi comment et surtout pourquoi vous êtes devenu avocat.
Alors comment peut-être pas par vocation, contrairement à beaucoup de personnes, parce que c'est venu assez tardivement dans mes études de droit, cette orientation, on va dire.
Et déjà, pourquoi des études de droit ?
Alors, des études de droit, déjà par défaut, donc déjà pas par vocation. Peut-être un peu par atavisme familial quand même, parce que mon grand-père avait fait des études de droit, mais mes parents absolument pas. Et donc, c'était quelque chose que je connaissais, mais exclusivement de nom, parce que je ne m'étais pas du tout intéressé à la matière avant d'entrer à la fac, à vrai dire.
Et à la fac, ça vous a plu ?
Oui. Oui, oui. Bon, un petit peu difficile de rentrer dedans en sortant du lycée au départ, comme beaucoup d'étudiants. J'ai pas été un étudiant modèle forcément, ou plutôt peut-être un étudiant typique de première année. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai redoublé ma première année. Donc,
un étudiant typique, c'est-à-dire voilà. Un étudiant qui redouble, très bien. Et donc, vous dites que ça vous a plu, mais voilà, un peu sur... Enfin, c'est venu avec le temps, on va dire.
Non, le droit m'a plu dès le départ. D'accord. Le droit m'a plu dès le départ. Ce que je ne savais pas, c'était que j'allais devenir avocat. Ça, je l'ai su tardivement.
Vous l'avez su à quel moment ?
Je l'ai su, je suis en train de réfléchir en même temps que vous me posez la question, je savais que vous alliez me le demander. Je l'ai su, je pense, quand j'ai fait mon DEA.
Donc
quand j'ai fait mon DEA, ouais.
Déjà un stade avancé des études.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui a fait un déclic ou...
Je pense pas qu'il y ait eu de déclic en fait. C'est toujours par une forme de mise sur le côté d'autres possibilités qui font qu'au bout d'un moment, on se rend compte que ça devient presque évident. Et si on l'avait su dès le départ, on se dit, mais oui, mais bien sûr, c'est une évidence. Sauf que inconsciemment, on n'y pense pas. Ou on y pense au contraire inconsciemment, on n'y pense pas consciemment. Ouais. C'est assez étonnant.
Quelles autres possibilités, justement, est-ce que vous aviez écartées au cours de vos études ?
Alors, je les avais écartées. En fait, je me destinais davantage. Ma réelle vocation, c'était commissaire-priseur. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est pas par vocation, parce que c'était ça mon but quand j'ai fait des... Enfin, pas en rentrant à la fac, mais au bout de quelques années, je me suis dit que j'aimerais bien faire ça. Et j'ai fait d'ailleurs une licence d'histoire de l'art pour compléter cette possibilité après ma fac de droit. Et je l'ai écarté en définitive parce qu'à ce moment-là, les charges de commissaire-priseur venaient d'être ouvertes de manière très libre à plein de sociétés commerciales. Et c'est à ce moment-là que toutes les sociétés anglaises, type Sotheby's, Christie's, sont venues investir les marchés français. Et j'aurais pu quand même continuer, parce que ça n'a pas changé grand-chose en définitive pour les commissaires-priseurs classiques, entre guillemets. Mais du coup, j'ai pris une autre orientation après. Et j'ai fait...
Ça vous a fait peur, en fait ?
Pas forcément. Non, c'est pas de la peur. C'est je peux même pas vous dire ce que c'est en définitive. C'est pas de la peur parce que j'ai changé. Je me suis dit non, mais pourquoi ne pas faire un métier purement juridique ? Je dis pas que le métier de commissaire-priseur n'est pas un métier juridique, c'en est un, mais pas exclusivement. Voilà, donc c'est arrivé à ce moment-là. Je me suis dit, il y a un bouleversement, la profession ne va plus être la même. Je ne sais pas à quoi m'attendre, alors que si je prends une profession qui est ancrée dans la tradition, ça sera peut-être plus facile.
D'accord. D'accord, donc voilà. Plutôt un...
Et donc, voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai... Donc, c'est après, parce que j'ai fait une maîtrise de droit, une licence d'histoire de l'art, et après, simplement, mon DEA.
Donc, vous avez pas cumulé vos études de droit et histoire
de
l'art ?
Si, la licence d'histoire de l'art, je l'ai faite directement en licence, après ma maîtrise. Et ensuite, j'ai fait mon DEA.
Ok.
De propriété littéraire artistique, et c'est en faisant ce DEA que je me suis dit non, mais je vais être avocat en propriété intellectuelle, c'est évident.
Et pourquoi la propriété intellectuelle et artistique ? On comprend un intérêt pour l'art, mais...
Voilà, alors c'est exclusivement ça. Au départ, c'est l'intérêt pour l'art, et puis la découverte de la propriété intellectuelle au sens plus large m'a fait découvrir la propriété industrielle que je connaissais très peu, et notamment le droit des marques pour lequel je me suis passionné pendant cette année de DEA.
Qu'est-ce qui vous a passionné dans le droit des marques ?
C'est peut-être... Je ne sais pas si on peut être passionné par le droit des marques, en fait, en y réfléchissant. Non, c'est le côté technique. Je trouve que c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une matière technique. Une matière technique et qui se démarque de manière assez forte des autres des règles de droit classique. C'est dérivé de la responsabilité civile, comme la plupart des matières, mais c'est quelque chose d'assez particulier, le droit des marques, dans le dépôt, dans la procédure administrative de contestation, dans la procédure judiciaire après de contrefaçon. Il y a c'est une matière qui m'a intéressé quand je l'ai étudié par sa spécificité, et j'ai fait mon mémoire de DEA en droit des marques avec une prof de droit spécialiste aussi en droit des marques. Et voilà, et ça m'a... Voilà, je me suis passionné un petit peu pour ce monde-là, tout en continuant à m'intéresser également au monde de l'art, effectivement, de la propriété littéraire et artistique, là, pour le coup.
Et vous dites que tout en continuant à vous intéresser au monde de l'art et à la propriété littéraire et artistique, comment se manifestait cet autre intérêt ? Est-ce que...
Bon, alors, l'intérêt... intellectuel, hein. Je veux dire intellectuel, c'est-à-dire que je me suis intéressé à la matière, tout simplement, à la protection de par les droits d'auteur.
Voilà. Donc vous lisiez, vous renseignez, vous...
Oui, non, mais je l'étudiais aussi en DEA. Hein. Je faisais les deux. Je faisais pas que la propriété industrielle, je faisais propriété littéraire artistique et industrielle.
Ok.
Donc j'avais d'ailleurs peut-être davantage de cours en PLA, en propriété littéraire artistique, qu'en droit des marques. Mais c'était une matière de marque que je ne connaissais pas. Ou très très peu, ou de manière imparfaite, que j'ai découvert cette année-là et qui m'a vraiment enthousiasmée.
Et est-ce que vous avez fait des stages ou est-ce que vous avez eu des expériences professionnelles pendant ce parcours universitaire ?
Très peu. Très peu. J'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats dans ma ville d'origine, quand j'étais... peut-être en licence ou en maîtrise, mais de 15 jours pendant des petites vacances.
Découverte.
Voilà, un stage de découverte. Et puis après, non, uniquement les stages obligatoires
dans le cadre de
l'école d'avocat.
Mmh. Ouais. Et donc, vous intégrez l'école après ce parcours.
Oui.
Stage obligatoire donc, ouais. Que vous effectuez dans quel type de structure ?
Alors, dans un cabinet d'avocat spécialiste en propriété intellectuelle, qui ne fait que ça, à Paris. Cabinet qui n'existe plus, comme beaucoup de cabinets parisiens qui ont disparu ou qui ont périclité, voilà. Et ce cabinet, je l'ai fait avec un maître de stage qui m'a beaucoup apporté, énormément, que j'apprécie toujours beaucoup, que je vois peu, mais que j'apprécie toujours beaucoup.
Qu'est-ce qui vous a apporté exactement ?
Il m'a fait découvrir ce qu'était un avocat, je pense. Comment dire, la pugnacité nécessaire pour défendre les intérêts de ses clients en toutes circonstances, tout en respectant les règles du jeu, on va dire, les règles de droit. C'est vraiment lui qui, en peu de temps, parce que j'ai fait qu'un stage de 3 mois à l'époque, on n'avait que 3 mois en prestage à faire pendant cette année d'école, il m'a vraiment, vraiment ouvert la voie vers ça. Donc j'étais avec lui, qui était mon responsable, le maître de stage, et je travaillais avec 2 collaborateurs de son cabinet, dont une aussi qui m'a beaucoup aidé, beaucoup appris en droit des marques notamment. Et qui m'a par la suite proposé, lorsqu'elle est partie de ce cabinet, de venir travailler avec elle dans un nouveau cabinet d'avocat aussi spécialisé en propriété intellectuelle
Ah
à
oui,
Paris.
et vous avez suivi cette
Ah
proposition?
ben, bien sûr.
Bien sûr.
C'était une très bonne chose, je le
Donc
remercie
en fait,
encore.
ce cabinet s'est arrêté.
Alors non, le cabinet a
Ah, le cabinet
continué.
a
Non, non, le cabinet a
continué.
continué. Les
Cette
deux, voilà.
collaboratrice est partie.
Cette collaboratrice est partie. Elle a été recrutée par un autre cabinet d'avocats et en arrivant, elle a proposé aux associés de ce cabinet de me prendre comme collaborateur.
Ouais.
Donc ils m'ont fait une proposition de collaboration que j'ai eue avant même d'avoir le diplôme d'avocat.
Oui, c'est ce que
Donc
j'allais vous
c'était
dire.
à la suite en définitive.
Et donc, en fait, vous avez fait votre dernier stage chez eux aussi?
Non, j'ai
Non.
été directement avocat chez eux. À
D'accord.
l'époque, il n'y avait qu'un stage de 3 mois. C'était avant la réforme qui a d'ores et déjà été réformée, je crois. En
Oui.
tout état de cause, à cette époque-là, il n'y avait que 3 mois de stage. Et ensuite, on passait le diplôme et on intégrait. Enfin, bon, il fallait trouver une collaboration, quoi. Donc, ces 3 mois de stage m'ont permis de rencontrer cette personne qui m'a proposé
Qui vous
une
a recruté
collaboration
par
dans un autre cabinet.
elle. Et vous dites que vous êtes donc parti à Paris. Est-ce que vous avez cherché votre stage à Paris? Est-ce que vous avez cherché votre stage dans plusieurs villes et il se trouve que c'est à
Non,
Paris que vous avez
j'ai
trouvé?
cherché qu'à Paris parce que je voulais faire exclusivement de la propriété intellectuelle. À cette époque-là, comme c'est toujours un petit peu le cas, lorsqu'on veut faire que ça et vraiment se spécialiser, il faut être à Paris.
Il faut être à Paris. Et c'était comment d'ailleurs d'arriver à Paris?
Oh bah c'était formidable, c'était bien. Bon, c'était pas l'inconnu pour moi. Hein.
Je ne sais pas.
C'était pas l'inconnu du tout. Non, non. Mon frère habitait à côté. J'étais logé chez lui d'ailleurs. Voilà, je connaissais Paris aussi déjà, j'ai de la famille sur place, voilà.
C'est une de mes toutes premières interviews, Zoé Poin, qui est originaire de Poitiers, ou en tout cas de
Oui.
la région, qui décrit quand elle a trouvé son stage à Paris, parce que je crois que c'était une histoire de son copain qui venait à Paris, et donc elle venait à Paris. Et elle explique qu'elle venait trouver son stage et que la rue du cabinet où elle a trouvé son stage débouchait sur les Champs-Élysées. Donc elle a eu un espèce de moment très cliché où, où elle... bref, donc c'est drôle pour les... En tout cas, moi, étant non parisienne, je vois très bien ce genre de cliché dans lequel on peut se retrouver quand on vient vivre à Paris pour la première fois. Et donc vous intégrez ce cabinet, en tout cas cette équipe dans un cabinet en propriété intellectuelle à Paris en collaboration. Et ça se passe comment?
Ça se passe très bien.
Vous y restez combien de temps?
J'y suis resté 6 ans et demi.
Donc ça se passe vraiment très bien.
Ça se passe très très bien. J'ai énormément appris. Toujours grâce à la personne qui m'avait fait venir, et puis également aussi aux associés de ce cabinet avec qui je me suis très bien entendu et qui m'ont fait confiance pendant quelques années. Voilà, ça s'est très bien passé.
Qu'est-ce qui se passait si bien? En quoi
Ah
est-ce
ben,
que ça se passait bien? Qu'est-ce qui vous
les dossiers
plaisait?
étaient passionnants, la formation était intéressante et c'était une vraie formation. Voilà, on m'a accordé. Toute sa confiance, voilà, donc c'était très bien, c'était parfait. Et puis je débutais dans la vie active, j'étais à Paris, voilà, j'étais avec ma compagne, on n'était pas d'enfants encore, donc on avait aussi cette liberté et on en a profité, donc c'était chouette, on avait des amis sur place, ouais, tout allait bien. Tout va toujours très bien d'ailleurs.
c'est formidable. C'est ce qui fait que vous êtes sur ce podcast aujourd'hui. Et sur quel type de dossier du coup est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous avez une sous-spécialisation en propriété littéraire?
Ben, plutôt en droit des marques.
En droit des marques.
Ouais, plutôt en droit des marques.
Et ça
Un peu de
vous.
droit des brevets aussi, mais surtout droit des marques.
Et ça vous a manqué l'aspect plus propriété littéraire et artistique?
Non, pas vraiment, mais j'en faisais toujours un petit peu, hein. De toute façon, c'est assez lié, hein, c'est des matières qui sont très proches les unes des autres. Non, ça ne m'a pas manqué. À vrai dire, comme j'ai découvert cette matière avec beaucoup de bonheur quelques années avant, voilà, je me suis vraiment investi dans cette matière-là, quoi.
Ouais. Et vous avez développé votre clientèle en parallèle ?
À Paris ?
Oui.
Oui, bien sûr. On m'a laissé la possibilité de le faire, ce qui est normal d'ailleurs. Oui, je l'ai développée. Je ne peux pas dire qu'elle était suffisante pour pouvoir me décider de créer mon propre cabinet. Bien sûr que non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. J'avais une petite clientèle personnelle, ça se passait très bien.
Qui venait de bouche à oreille.
Oui, c'est ça, voilà, des amis, des relations, et puis des amis qui vous confient leurs amis aussi, comme ça se fait de manière habituelle. Et puis après, au fur et à mesure, ça commence à grossir parce que ça fait un effet boule de neige, quoi. Même si c'est pas allé encore jusqu'au bout, comme je vous le disais.
Voilà. Et pourquoi ça s'est terminé au bout de 6 ans et demi ?
Alors, c'est pas que ça s'est terminé, c'est parce que j'ai décidé de partir et de revenir.
Pourquoi donc ?
De revenir à Poitiers.
D'accord.
Voilà. Enfin, j'ai décidé de revenir à Poitiers. Disons que arrivé à une certaine époque de ma vie, je venais d'avoir notre fille. Nous venions d'avoir une fille. Et la question qui se posait, c'était de savoir comment l'élever à Paris de manière convenable, aussi bien que nous, ma compagne et moi, avons pu vivre notre enfance. Chacun dans des endroits plutôt sympas, dans des belles maisons, avec de l'espace, voilà. Ce qui n'était pas le cas évidemment pour nous à Paris. Voilà. Et c'est tout simplement en réfléchissant à ça, on s'est dit, bon, mais peut-être qu'il faudrait quand même qu'on essaie de trouver quelque chose en province au départ. Et puis, bien évidemment, j'ai commencé à chercher. J'ai pas trouvé tout de suite. Et une de mes amies de longue date m'a indiqué que le cabinet dans lequel je suis encore aujourd'hui recherchait des collaborateurs et qu'ils aimaient bien recruter des gens qui voulaient s'ancrer territorialement dans leur ville d'origine, et voilà, et que l'expérience que j'avais nécessairement devait les intéresser.
Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc, ça a été un choix de qualité de vie.
Enfin, oui, choix de qualité de vie.
Type ouais, de vie, de style ouais, de vie et de qualité de vie qui fait que.
À l'origine, oui, le choix a été guidé par une qualité de vie, par une volonté de retrouver une meilleure qualité de vie, ouais.
Avec la naissance de votre fille. Et donc, ce que je comprends, c'est que vous en avez parlé à vos amis autour de vous de telle façon que vous avez une amie de longue date qui a pensé à vous par rapport à ce cabinet.
C'est ça.
Au moment où ils cherchaient un collaborateur. Et donc, quand vous les avez rencontrés, c'était que pour de la propriété intellectuelle, droit des marques. Est-ce que ça impliquait d'élargir votre scope d'intervention ?
Alors, moi, je savais que ça impliquerait de l'élargir. Et ils me l'ont dit, effectivement. C'était évident pour eux que je ne pouvais pas faire que ça. D'autant plus qu'ils n'avaient personne qui pouvait éventuellement me guider. Moi, je n'étais que collaborateur, donc obligatoirement sous la responsabilité d'un avocat associé à ce moment-là. Et que les associés en question ne faisaient pas de propriété intellectuelle, donc il n'était pas possible pour eux de me guider dans cette direction. Donc il fallait que j'élargisse mon champ d'activité, et ce que j'ai accepté, parce que j'avais aussi la volonté, après avoir fait 6 ans et demi de quelque chose de très spécialisé, d'essayer de m'ouvrir un petit peu à d'autres matières. Et voilà, donc c'était je le savais en arrivant, et on me l'a confirmé au premier rendez-vous. On m'a dit, attention, ça va être un peu différent dans le type de dossier, quoi.
Ce qui veut dire que, en fait, il y avait déjà de la propriété littéraire et artistique dans le cabinet ?
Très peu.
Très peu.
Oui, très très peu.
Donc, ils ont fait un pari sur vous, d'une certaine manière, parce que vous aviez principalement des compétences dans une spécialité qui n'était pas la leur.
Oui, sans doute que c'était un peu un pari aussi de leur part, oui, de savoir si j'allais pouvoir éventuellement aussi me développer d'autres compétences que je n'avais pour l'instant pas encore développées. Mais c'était aussi ma volonté hein, de le faire, donc je leur ai indiqué que j'avais la volonté de, et pour le coup, ça s'est bien passé.
Et donc vers plutôt du droit des affaires, vers quel type de...
Alors, du contentieux exclusivement, ouais. Contentieux en droit des affaires, oui, voilà.
Okay.
droit commercial, droit des affaires.
Et donc, vous arrivez à Paris, à Poitiers. Vous rentrez plutôt à Poitiers. Mmh. Comment se passe ce retour?
Bah, très bien.
Vous y êtes
alors,
encore,
avec un, encore un peu de... oui, c'était, en plus, c'est un retour. Les choses ont quand même pas mal changé, à la fois pour la ville de Poitiers et pour moi, pendant ces 6 ans et demi. Moi, j'ai bien sûr évolué, j'ai beaucoup changé. C'est une époque, une période de la vie où on évolue beaucoup, le début de son activité professionnelle. Donc, entre 25 ans et 31 ans, puisque c'était ça, j'ai pas mal changé.
Donc, en quoi est-ce que vous aviez changé, à votre avis?
Bah, je pense dans mes aspirations, dans, certainement. Je sais pas, je suis parti d'ici étudiant et je suis arrivé avec une expérience professionnelle. Donc, j'ai pas évolué à Poitiers. J'ai quitté Poitiers à un moment donné où j'étais encore étudiant, où j'allais rentrer en vie active. J'y suis arrivé, j'avais déjà cette expérience. Donc, c'est presque un nouveau départ, quoi. Avec des personnes qui ont disparu de la circulation parce qu'elles ont fait comme moi, elles sont parties dans une autre ville après la fin de leurs études. D'autres personnes qui sont arrivées, qui ne sont pas originaires de Poitiers, qui ont fait leurs études ailleurs, que l'on ne connaît pas. Poitiers est une petite ville quand même. Et du coup, on ne peut pas échapper au croisement des personnes ou justement à s'étonner de ne plus les croiser lorsqu'on est habitué à les voir, quoi. Donc, ça a eu des changements, oui.
Vous aviez encore des amis ici ?
Quelques-uns, mais notamment la personne qui m'avait conseillé de venir ici.
Ouais. Ça aide, j'imagine.
Oui,
moi, je ne connais plus grand monde de mon époque de lycée ici. Enfin, en fait, la majorité de mes amis poitevins...
Ils sont partis.
...sont à Paris. Mmh.
Eh oui. Ouais, non, mais il y a énormément de gens qui partent de Poitiers, malheureusement, pour la ville. Hein.
Ouais.
Des gens de qualité. Et il y en a qui en reviennent.
et donc, vous arrivez ici. Et comment se passe l'intégration au cabinet? Et aussi, le nouveau défi lié au fait d'élargir son champ de compétences, de changer un peu de domaine d'intervention?
Alors, au départ, ça s'est vraiment toujours très bien passé. Hein. En règle générale, vraiment très bien passé. J'ai été très bien intégré par tout le monde. Je pense que c'est peut-être un peu présomptueux, mais j'étais attendu un peu parce qu'ils étaient à la recherche de collaborateurs depuis un certain temps. Donc il y avait peut-être une forte attente de ma part, enfin de leur part pour moi, quoi. Ils étaient en demande et du coup j'ai été très bien traité, bien accueilli. On m'a confié des dossiers intéressants, on m'a fait confiance. J'ai été reformé une nouvelle fois dans d'autres matières que je connaissais pas ou mal.
Et qui vous ont plu ?
Et qui m'ont beaucoup plu, énormément, bien sûr. Bien sûr. Et voilà, et moi je les remercie tous encore de m'avoir fait cette confiance-là au cabinet N France. C'était une belle marque de confiance, donc ça s'est très bien passé.
Et vous y êtes encore aujourd'hui ? Ça fait combien de temps ?
Eh bien, depuis 2007, je suis arrivé en mars 2007.
Donc on va parler de votre évolution, parce que ouais. Depuis 2007, j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses.
Oui, c'est passé un certain nombre de choses.
Comment est-ce que vous avez évolué? Comment est-ce que vous voyez votre évolution ici?
C'est une évolution assez classique hein, d'avocat qui arrive collaborateur quelque part, qui s'y plaît, qui démontre qu'il est capable de s'intégrer, de s'intéresser au développement d'un cabinet, d'une entreprise en règle générale, hein, que ce soit une entreprise ou un cabinet, ça ne change pas grand-chose, et à qui on propose une association au bout de quelques années. Alors, le cabinet N France est constitué pratiquement que d'anciens collaborateurs. Hein. Enfin, il a été fondé par un certain nombre d'avocats qui, pour certains, sont partis parce qu'ils sont partis à la retraite. D'autres sont encore présents. Mais sur la trentaine d'associés du cabinet, je pense que 80% sont des anciens collaborateurs. C'est-à-dire que c'est l'évolution naturelle d'un collaborateur au cabinet de devenir associé s'il s'y plaît. S'il le souhaite, s'il s'y plaît et si on sent qu'il en a la capacité.
Et comment, à partir de quel moment est-ce que vous vous êtes investi dans plus une démarche de développement ?
Mais dès le départ, je crois. Dès le départ. Alors j'ai toujours conçu la profession comme étant... on est certes profession libérale, mais on est aussi des entrepreneurs. Hein, donc j'ai toujours conçu cette profession comme étant un métier où il faut développer son activité, chercher de la clientèle et également développer au sein même de sa propre clientèle des besoins éventuellement qui n'auraient pas forcément été encore mis à jour, quoi.
Mais est-ce que c'est une approche que vous aviez déjà à Paris?
Déjà, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, mais alors, peut-être qu'elle s'est accrue, cette volonté en moi de démarchage ou d'accroître cela avec le temps, certainement, et puis avec les exemples que j'ai eu autour de moi.
D'accord, donc c'est déjà une démarche que vous aviez à Paris, pas forcément pour votre clientèle personnelle, mais peut-être pour celle du cabinet.
Oui, c'est ça, oui, bien sûr.
Et quand vous êtes arrivé ici, vous vous êtes aussi inscrit dans cette dynamique.
Oui, bien évidemment.
Et donc, comment est-ce que vous avez fait?
Je ne vais pas vous dévoiler tous mes petits secrets.
Ah ben, j'espère bien que si.
Je plaisante. Comment j'ai fait? Je ne sais pas. Ça se fait un peu naturellement, ce genre de choses. Un peu de la même manière que quand je vous expliquais comment, au départ, on développe une clientèle personnelle quand on est jeune avocat. C'est avec d'abord ses connaissances proches. Puis au bout d'un moment, l'effet boule de neige fait que vous avez des gens que vous ne savez même pas d'où ils viennent, mais ils ont entendu parler de vous et ils viennent vous voir. Alors, peut-être que j'ai profité de l'expérience que j'avais en propriété intellectuelle à Poitiers. Parce que je suis arrivé à Poitiers, je crois qu'il y avait deux confrères qui avaient la spécialité propriété intellectuelle. Mais ils ont tous les deux perdu cette spécialité. Et moi, je l'ai acquise quelques mois après être arrivé à Poitiers. C'est-à-dire que j'ai passé l'examen de la spécialité en arrivant à Poitiers, puisqu'il faut avoir un certain nombre d'années d'expérience et des références à pouvoir faire valoir pour obtenir ce diplôme de spécialité. Je l'ai passé avec l'accord d'ailleurs du cabinet Tan France, qui m'ont même poussé à obtenir cette spécialité qui faisait défaut au cabinet. Et je pense que ça a joué pas mal dans le développement de mon activité, puisque une fois que vous avez cette spécialité, ça vous donne une compétence particulière qui est recherchée par certains clients qui jusqu'à présent ne les trouvaient pas sur place, par exemple, donc devaient aller à Paris, puisque c'est vrai que la plupart des cabinets de propriété intellectuelle sont installés à Paris ou dans les très grandes villes. Et voilà, donc j'ai commencé à développer aussi une activité en propriété intellectuelle à Poitiers. Alors, d'une part, parmi les clients déjà du cabinet, qui ne n'avaient pas ces compétences.
Donc le cabinet vous a ouvert facilement le carnet d'adresses des clients en interne pour proposer
ça. Ah oui,
non,
mais c'était essentiel pour... encore une fois, ils m'ont fait confiance et tant mieux, puisque ça a permis de développer cette clientèle. Ouais.
Et... en plus, une clientèle extérieure que vous avez développée.
Et aussi, oui, bien sûr, une clientèle extérieure, des tas de gens qui vous appellent parce qu'ils ont besoin de conseils en propriété intellectuelle et qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, on va dire, auprès d'autres confrères. Donc, voilà.
Est-ce que vous avez fait des actions de développement de type réseautage? Est-ce que vous avez...
Alors, très peu.
...publié? Enfin, est-ce que vous avez fait des démarches un peu autres que le bouche à oreille?
Non, j'ai fait quelques actions de formation. Grâce d'ailleurs à des mises en relation par le cabinet auprès de chambres de commerce, ce genre de choses de la région, auprès d'associations aussi, mais c'est pas ça qui, à mon sens, a permis de faire connaître ma spécialité, je crois pas.
J'ai l'impression que le certificat de spécialité je ne sais pas s'il a plus de valeur, mais en tout cas qu'il est plus valorisé, recherché, mis en avant en région qu'à Paris.
Peut-être.
Ouais, je me demande parce que quand j'avais échangé avec Anne-Sophie Herbelot-Droufignac, pareil, je lui avais demandé une recommandation d'avocat ici pour un ami. Et tout de suite, elle avait pensé aux confrères qui avaient un certificat de spécialité dans cette matière. Alors que je pense qu'à Paris, il y a moins de... il y a peut-être moins de... Je ne sais pas si de dépendance, mais c'est moins un facteur déterminant au stade de la recommandation.
Non, c'est possible. C'est possible.
Et vous, comment... est-ce que vous avez vu des différences entre le développement parisien et le développement poitevin? Ne serait-ce que dans le tissu économique, dans les attentes des clients?
Oui, les attentes des clients, non, je pense qu'elles sont à peu près identiques. Évidemment, le tissu économique n'a rien à voir à Poitiers et à Paris. Ici, c'est constitué exclusivement de toutes petites entreprises, de PME ou d'artisans, ou de personnes indépendantes, alors que les sociétés pour lesquelles je travaillais au sein de mon ancien cabinet comme collaborateur, c'était des entreprises beaucoup plus structurées, plus importantes, avec des fois des services juridiques, ce qui peut arriver aussi pour certaines PME de région, mais qui sont... C'est pas la même structuration d'entreprise, c'est clair. Du coup, les attentes ne sont pas forcément les mêmes en termes de compétences. En revanche, le résultat est toujours le même pour le client. Ce qui importe, c'est que le résultat soit atteint, quoi. Le but ultime soit atteint.
Et ça, ça vous a... Je sais pas, ça vous a fait quelque chose, ce changement de culture locale en termes d'entrepreneuriat, j'ai envie de dire?
Pas vraiment. Pas vraiment. Et en même temps, c'était peut-être dans une sorte d'évolution où j'ai sans doute eu beaucoup plus de contacts avec des chefs d'entreprise en étant à Poitiers que j'en avais quand j'étais à Paris. Je pense que c'est dû à deux choses. C'est dû d'une part au fait que quand j'étais à Paris, j'étais jeune avocat et que les associés qui me confiaient les dossiers n'avaient peut-être pas envie que je sois au front avec les chefs d'entreprise qu'ils pouvaient rencontrer. Première raison. Et puis la deuxième, c'est que aussi, les relations entre les avocats et le client ne se font pas forcément par le biais du chef d'entreprise dans des très grandes entreprises. Il y a des services juridiques, comme je vous le disais. Donc, vous n'avez pas forcément l'interlocuteur, le décideur en face de vous. C'est ça qui est agréable quand on travaille avec des entreprises un petit peu plus petites ou qu'on a peut-être un peu plus d'expérience et de pouvoir justement être en contact direct avec le dirigeant. Mmh. J'ai l'impression d'être son bras droit un petit peu quelque part des fois sur certains aspects.
Ouais. Et donc, vous avez ce développement qui se fait assez rapidement? Est-ce que...
Alors, je dois dire, je ne sais pas. Je ne sais pas mesurer ce genre de choses.
Au bout de combien de temps est-ce que vous avez été associé?
Au bout de 4 ans.
Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous estimez que c'est rapide? Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez? Est-ce que c'est quelque chose
que
vous recherchez?
C'est quelque chose que j'espérais, oui, que je recherchais, évidemment. Que j'attendais aussi, dans la mesure où je le recherchais, j'en étais en attente, oui. Est-ce que c'est rapide? J'en sais rien. Je pense que je suis arrivé à une époque de ma vie, après quelques années d'expérience, où si l'association ne se fait pas dans les quelques années qui viennent, elle sera plus difficile, sans doute, à mener, quoi. Je pense, hein. Maintenant, je n'ai pas pensé à cette question du tout. j'ai jamais réfléchi à ça, est-ce que ça a été vite ou pas. En tous les cas, moi, c'était dans un timing intéressant pour moi. Et si je regarde les exemples de mes associés autour de moi, certains ont été associés plus jeunes, d'autres un petit peu après. Et en termes de temps de présence comme collaborateur avant d'être associé, c'est à peu près équivalent à chaque fois. Voilà. Donc moi, j'ai peut-être un petit temps de retard en termes d'âge parce que je suis arrivé avec une expérience relativement longue, enfin 6 ans et demi ailleurs. Alors que celui qui est arrivé à 25 ans au cabinet va pouvoir faire ses preuves plus rapidement, je pense. Plus jeune, tout autant de temps, mais il le sera plus jeune.
Donc en fait, d'une certaine manière, ce temps passé à Paris est très spécialisé en propriété intellectuelle et en droit des marques. Mmh. Ça vous a permis, ça a été un atout une fois arrivé, rentré à Poitiers dans votre développement, parce que ça vous a permis de créer une pratique, en fait, ici, de proposer des nouveaux services, etc. Mais pas nécessairement, ça n'a pas forcément été... Enfin, du coup, cette opportunité de pouvoir créer cette pratique ici, ça n'a pas forcément été un accélérateur après d'associations en interne ou...
Peut-être, mais on ne me l'a jamais exprimé comme tel. Je pense que ce qui a été vraiment le moteur de l'intégration comme associé, et c'est toujours ce qu'on recherche maintenant... Moi-même, je suis associé, je prends part aux décisions d'association des collaborateurs. Ce qu'on recherche surtout, c'est une volonté de s'investir, d'investissement. Pas forcément d'investissement en termes financiers, hein, bien sûr, mais d'investissement dans le développement du cabinet, quel qu'il soit. C'est vraiment ce qui nous motive hein, pour associer quelqu'un. Donc, quelqu'un qui est très investi, qui est très intéressé par tout ce qui se passe au cabinet, qui démontre qu'il fait tout pour le cabinet. Guillemets, hein. sera forcément préféré à même quelqu'un qui va développer un chiffre d'affaires important, mais qui ne va pas forcément le mettre à disposition de l'intégralité des associés du cabinet, parce que nous, on a une particularité dans ce cabinet, Antenne France, hein, c'est que nos clients ne sont pas des clients des associés, c'est des clients du cabinet, philosophiquement, je veux dire. Hein, et lorsque moi, je traite un dossier pour un de mes clients en droit des marques, ce même client a un dossier peut-être traité pour un bail commercial par un de mes associés et puis pour un problème au tribunal administratif par un autre associé et également des prud'hommes à gérer pour, avec un autre associé. Voilà. Et les clients tournent dans le cabinet et trouvent ici un service complet, on va dire, de service juridique.
Ça se reflète dans, dans le mode de rémunération des associés ?
Oui, oui, quand même, oui.
Oui. C'est une question.
Oui, oui, bien sûr.
Ouais. Donc, vraiment, une logique, pas une logique pure de « eat what you kill ».
Non. Non, non, pas du tout, au contraire.
Et donc, en fait, puisque ce que vous attendez de vos collaborateurs, ce n'est pas une pure logique de développement de chiffre d'affaires, mais aussi une logique de développement du cabinet en général. Du coup, qu'est-ce que vous appréciez en plus du chiffre d'affaires, concrètement ?
Quand je parlais d'investissement et de dire qu'on fera tout pour le cabinet, il y a un peu de ça, un peu de vrai quand même. Je plaisantais avec ça, mais de dire que ça ne nous empêche pas d'avoir une vie privée, hein, je vous rassure tout de suite. Mais c'est vrai qu'on va se mettre au service des intérêts du cabinet avant d'avoir de se mettre au service de ses propres intérêts, même professionnels. C'est vraiment ça qui peut motiver.
Mais donc concrètement, ça s'exprime comment ? J'ai du mal à comprendre in concreto.
C'est une attitude. C'est difficile. On peut pas. C'est quelque chose qu'on mesure avec le temps déjà, par le fait de voir que un collaborateur ne va pas hésiter parce qu'on a besoin de ça, de passer des week-ends par exemple à travailler sur des conclusions parce que c'est très urgent et que le client le demande. Ce sont des critères, ou le fait que quelqu'un ne va pas hésiter à passer plusieurs soirées à représenter le cabinet dans des institutions diverses et variées ou pour remettre des prix à telle et telle personne dans des manifestations diverses. Ça aussi, c'est une marque de manifestation d'intérêt pour le cabinet qui ne va pas forcément développer un chiffre d'affaires immédiat. Vous voyez, ce genre d'exemple ou le fait de faire des publications sur le site internet du cabinet à destination de nos clients ou pour montrer le savoir-faire du cabinet. Tout ce qui est mis en avant de notre structure sera forcément prise comme une marque d'intérêt.
Et donc, vous êtes associé au bout de 4 ans.
Oui.
Objectif atteint.
Comment ?
Objectif atteint.
Oui, alors objectif atteint, je ne sais pas.
En tout cas, un objectif atteint.
Oui, ouais, voilà. Ce n'était pas non plus un but en soi, c'était un désir. Je ne suis pas venu dans ce cabinet-là pour me dire c'est ici que je serai associé. Je ne le savais pas là, en arrivant. Parce que, comme je vous l'ai dit, ma motivation première, c'était gagner en qualité de vie. Mm. Ce que j'ai tout de suite mesuré. Et
oui.
Après, ça, c'est le
reste. J'allais vous poser la question, justement.
Le reste, c'est arrivé plus, de manière plus diffuse, on va dire, voilà, au fur et à mesure. Hein.
Et vous parliez de votre objectif premier qui était de gagner en qualité de vie. Et ça, vous l'avez tout de suite mesuré.
Oui, oui, bien sûr. Alors, je savais... Comme j'ai grandi tout près d'ici, je savais à quoi m'attendre. Mais effectivement, oui, j'ai gagné en qualité de vie. C'est indéniable.
L'espace. Le rythme.
Oui, alors le rythme, oui, le rythme, surtout l'absence de temps perdu, plus que de rythme, en fait. C'est-à-dire que c'est du temps utile, ici.
C'est-à-dire
que quand vous dites « je vais travailler, je pars de chez moi à 8h le matin pour aller travailler », vous n'arrivez pas à 9h30. Vous arrivez à 8h15. Donc, et pour autant, vous n'êtes pas parti plus tôt ou plus tard que si vous habitiez à Paris. Donc là, il y a une petite différence. Bon, à part certains qui ont la chance de pouvoir habiter tout près de leur lieu de travail à Paris, c'est quand même une grosse différence. Donc le rythme est toujours aussi soutenu pour moi. Hein. Je travaille ni plus ni moins, je pense, toujours autant pour le cabinet, enfin dans mon métier en tous les cas. En revanche, il n'y a plus de perte de temps. Donc ça, on gagne en efficacité, en temps utile.
Le relationnel
Le relationnel, je ne peux pas dire que... Alors, j'ai de très bons amis dans toutes les régions du monde et de France. Non, non, je ne peux pas dire que j'ai eu plus facilité de relations à Poitiers qu'à Paris.
Et une fois que vous êtes devenu associé, est-ce que vous avez l'impression que votre rôle a changé ?
Non, parce que ça s'est fait dans une sorte d'évolution naturelle. Donc non, mon rôle n'a pas changé. La différence, c'est que... Alors, j'avais déjà gagné en autonomie avant de devenir associé. La seule différence, c'est que là, vous devenez responsable de vos dossiers, quoi. Donc, il n'y a plus de double signature, par exemple. C'est un détail, mais vous prenez toute la responsabilité de toutes les bêtises que vous pouvez faire.
Et d'ailleurs, est-ce que, au fur et à mesure, vous avez maintenu une double compétence contentieux des affaires, propriété intellectuelle ?
Oui, toujours. Ouais. Et toujours.
C'est quelle part de répartition, à peu près ?
J'ai jamais fait vraiment de statistiques pour savoir. Je dirais peut-être que j'ai 30% de mon temps en propriété intellectuelle, à peu près.
Donc ça n'a pas... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que vous avez bien développé ici par rapport à ce que c'était avant.
Oui.
Mais c'est pas non plus devenu...
Non, c'est pas... Non, parce que malheureusement, je pense pas que... Alors, je pourrais me consacrer exclusivement à ça. Mais en revanche, là, pour le coup, en termes de rentabilité, ça ne serait pas forcément très fructueux pour le cabinet. Quand je vous ai dit qu'on n'attendait pas forcément de développement de chiffre d'affaires, il faut quand même être rentable au minimum. C'est la moindre des choses.
J'imagine. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre métier ?
Métier d'avocat ?
Ce que je comprends, c'est que du coup, ça fait 15 ans que vous exercez ? Une quinzaine d'années ?
Depuis 2001.
Depuis 2001,
plus
donc
même.
Non,
ça
plus.
Bientôt
ouais.
20 ans, la fin de l'année prochaine, fin de 2021. Décembre 2021, ça fera 20 ans. Ouais.
Exactement. Comment est-ce que vous appréciez votre métier aujourd'hui et comment est-ce que vous vous projetez dans votre activité ?
Dans le métier d'avocat en règle générale ou dans mon activité ?
Dans votre activité, vous, à titre personnel,
alors,
comme avocat.
Moi, à titre personnel, ça fait quelques années que j'ai des collaborateurs qui travaillent pour moi, en parallèle du travail que je fournis. Et ce que je souhaiterais, c'est que mon chiffre d'affaires se développe encore plus pour permettre l'intégration de nouveaux collaborateurs de mon équipe.
Donc faire grandir votre équipe.
Voilà, ça c'est en condition qu'encore une fois, ça soit en relation avec le chiffre d'affaires développé. Donc ça, c'est un objectif. C'est toujours agréable d'avoir des gens autour de soi qui travaillent avec vous, peuvent échanger avec vous, vous soutenir, vous apporter des contradictions de temps en temps. Voilà, c'est sympa le travail en équipe.
Manifestement, c'est agréable pour eux aussi, puisque c'est une de vos collaboratrices qui vous a recommandé sur le podcast.
Oui, je sais, elle m'a dit ça.
Donc, ça doit être. Qu'est-ce que vous recherchez d'ailleurs dans votre travail en équipe ?
Dans
votre travail en équipe. Comment est-ce que vous cherchez à travailler en équipe ?
Alors. Comment est-ce que je recherche travailler en équipe ? Le travail en équipe, c'est une nécessité. Donc, c'est plus qu'un but à atteindre. C'est une nécessité parce qu'on a tous des compétences multiples. On a tous développé plus ou moins bien certaines autres compétences. On a besoin des autres pour pouvoir avancer et faire les choses le mieux possible. Donc, moi, je crois dans les talents de chacun. Et on a besoin des autres pour avancer et pour se perfectionner. Et tout à l'heure, je disais, c'est agréable d'être en équipe pour pouvoir recevoir du soutien et aussi qu'on vous apporte la contradiction. Et c'est peut-être ça aussi que j'attends de ceux qui travaillent avec moi, c'est de me dire, non, là, tu te trompes, ou c'est pas comme ça que j'aurais fait, ou est-ce qu'on peut pas faire autrement, est-ce qu'on peut pas mieux faire ? Parce que c'est comme ça qu'on progresse, je crois. Voilà, et puis mon équipe est constituée de collaborateurs et d'assistantes aussi, qui ont aussi leurs compétences propres. Et avec lesquels je travaille, j'espère, en bonne intelligence pour le moment, en tous les cas, et qui nous apportent beaucoup, et qui nous apportent tout leur soutien et toutes leurs compétences dans leur activité, qui n'a rien à voir avec celle d'avocate, évidemment.
Vous disiez en relatif début d'entretien que le cabinet avait un petit peu peiné à recruter. Enfin, je veux dire que vous étiez attendu parce que... vous étiez attendu, il y avait un besoin et... Est-ce que j'avais interviewé Louise Ménard de Fidal La Rochelle, qui disait que...
Qui était stagiaire au cabinet.
Oui, effectivement.
Vous avez dit
oui, elle avait parlé.
Elle un peu.
Ah, bah, c'est... Oh là là, le monde est minuscule.
Oui, parce que quand je suis arrivé au cabinet, Elle devait être en stage, parce qu'on a, on a peu d'écart en définitive, enfin 5-6 ans peut-être d'écart d'âge.
Ouais. Ouais, ouais. Et elle disait que... Et elle faisait un appel à CV dans le cadre de son entretien, parce qu'elle disait je... On a du mal à la
Rochelle.
Ouais, même à la Rochelle. Et donc, j'allais vous demander, est-ce que vous avez...
Ouais, non, c'est difficile. C'est difficile d'attirer des talents en province, je crois. Mais c'est pas propre à la profession d'avocat, hein, parce que quand on en discute avec ses clients dans des métiers totalement différents, tout le monde dit qu'ils ont du mal à recruter et à trouver des gens qui veulent venir travailler à Poitiers notamment, mais même dans d'autres villes de province. C'est compliqué. Ouais, un manque d'attrait de ces petites villes. Alors je suis étonné pour Louise Ménard, je pensais que La Rochelle était une ville très attrayante.
Non, elle m'avait vraiment dit, on en avait reparlé en off.
Non,
et
mais
elle
je plaisante parce que je sais que c'est le même problème partout. non, mais disons que pour attirer les gens qui connaissent pas Poitiers, on leur dit que c'est pas loin de La Rochelle, ça fait un peu rêver. Donc, mais en fin de compte, c'est pas une bonne idée. Je pense
que
ça fait pas.
C'est sûr que
rêver.
Le futuroscope n'est pas l'argument le plus vendeur.
Non, mais Poitiers, j'en parlais à une connaisseuse. C'est une ville qui est agréable à vivre. C'est une toute petite ville de province, un peu tranquille, mais qui dispose de nombreux atouts insoupçonnés. Et notamment, c'est une ville très jeune, parce que vous savez que Poitiers a un quart de sa population qui est composée d'étudiants. Donc il y a 25 000 étudiants à Poitiers sur 100 000 habitants, ce qui est énorme. Hein. Je ne sais pas s'il y a une proportion d'étudiants aussi importante dans une autre ville de cette taille en France. Je ne suis pas certain. Donc c'est une ville qui, quand même, contrairement à ce qu'on pourrait penser, est peut-être un petit peu endormie, entre guillemets, mais qui, quand même, dispose de ressources et de vie toute la semaine. C'est le week-end où c'est problématique, quand les étudiants sont rentrés chez eux pendant les vacances. Mais c'est vrai que dans la semaine, si vous avez envie de faire des choses à Poitiers, vous avez plein d'activités culturelles, vous avez plein de bars où il y a une animation, où il y a des soirées étudiantes. Enfin, en ce moment, c'est pas tellement de...
J'ai pas prévu les auditeurs qu'on allait leur vendre Poitiers pendant cet entretien.
Non, mais
c'est vrai que j'étais curieuse. Il y a pas de mal. Mais je suis curieuse de cette histoire de difficulté de recrutement. Ça m'étonne parce que à côté de ça, enfin, je veux dire, on entend quand même aussi ces questions autour de l'emploi et le chômage et les jeunes qui n'arrivent pas à trouver l'emploi, etc. Et donc, c'est quelque chose qui... C'est un constat quand même en décalage avec des entreprises qui disent « Mais nous, on a du mal à recevoir des CV, ne serait-ce que recevoir des CV. »
Oui, alors après, tout le monde a des exigences un peu différentes dans son recrutement. Peut-être qu'il est facile... dans certaines professions, de recruter des personnes parce qu'elles sont sur place. Les avocats, à Poitiers, il n'y en a pas... C'est même s'il y a une école d'avocats, ceux qui sortent de l'école chaque année, il y en a peut-être 10%, même pas, qui restent à Poitiers. Tout le monde s'en va. Ils s'en vont à Paris, notamment, ou dans d'autres grandes villes, à Bordeaux ou n'importe où, et ils restent. Parce que quand on s'est créé son réseau dans une ville, c'est difficile de repartir. J'en parle en connaissance, ça n'a pas été facile, même après 6 ans et demi, c'est pas évident hein, de quitter tous ses amis, toutes ses relations, toutes ses habitudes, son appartement, voilà, même si c'est pour avoir une maison beaucoup plus grande quand on arrive en province, c'est pas facile de partir. Et il faut le faire pour ne pas le regretter en définitive, parce que le faire c'est peut-être dur au départ, mais je connais peu de personnes qui repartent.
Vous avez remarqué un changement après le confinement ? Parce que j'ai lu un article.
Oui, mais un peu.
Ouais. Parce que vraiment, j'ai lu un article, je ne sais pas, ça devait être dans Elle, qui parlait du boom immobilier dans des villes, et il listait des villes, et il y avait Poitiers parmi ces villes. Et hier, en arrivant...
Investissez vite, pour que ce soit trop cher.
Et hier, en arrivant chez mes parents, il y avait des amis à eux, quel anti-exemple, parce qu'ils sont tous plus que sexagénaires, et ils continuent à se retrouver, bon bref, et qui habitent à Angles-sur-l'Anglin, et ils disaient qu'il y avait une arrivée de Parisiens qui vendaient des biens immobiliers à Paris, et qui s'achetaient des beaux hôtels particuliers dans le centre-ville de Angles. Et donc voilà, et donc ça me faisait sourire, et je me suis demandé si vous voyez du coup une répercussion de ça dans le recrutement.
Alors dans le recrutement, pas encore malheureusement, mais j'ai plusieurs exemples de mon entourage, de personnes qui étaient à Paris encore l'hiver dernier et qui aujourd'hui sont installées à Poitiers. Pour la simple raison qu'un confinement à Poitiers, c'est quand même vachement mieux qu'un confinement à Paris.
Oui, c'est pas les mêmes,
ça n'a rien à voir, quoi. Donc, et je pense que les gens commencent à mesurer que la qualité de vie peut être aussi importante. Il n'y a pas que, c'est bien aussi d'avoir une offre culturelle importante ou tout à proximité comme ça peut l'être dans les très grandes villes. C'est vrai que d'avoir de l'espace, d'avoir de la tranquillité, c'est des fois aussi appréciable.
Bon, tout ça
et
pour
c'est vrai
dire que
le confinement a changé un petit peu les mentalités, mais pas encore suffisamment pour que je le constate moi.
Pour que vous le voyez dans les CV que vous recevez.
Malheureusement.
En tout cas, la vie est passée, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui s'interrogent sur des opportunités comme avocat en province. Poitiers est une ville charmante et Ten France vous accueillera peut-être les bras ouverts.
Ah avec grand plaisir.
Et fidèle à La Rochelle, vous pouvez contacter Louise Ménard. Comment est-ce que vous projetez votre développement ? Donc vous avez dit le fait de faire grossir votre équipe, mais est-ce que vous avez d'autres envies est-ce que vous avez envie de toucher une clientèle particulière ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, quelles envies vous avez pour votre activité ?
Une clientèle particulière ? Alors moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est justement la diversité de la clientèle. C'est un des gros attraits de la profession d'avocat, je crois. Il y a d'autres professions comme ça, les experts comptables aussi sont confrontés à ce côté agréable, c'est qu'on connaît des gens qui sont dans des métiers totalement différents du vôtre et chaque client est différent. Après, il y a des domaines d'activité qui peuvent se ressembler, mais c'est quand même ça qui est agréable. Je ne pense pas, moi, avoir l'aspiration de développer un type de client ou de me tourner vers un type de clientèle. Il y a, en revanche, certaines activités qui m'intéressent davantage que d'autres, bien évidemment. Et tout ce qui est, on va dire, nouvelle technologie ou bien innovation m'intéresse particulièrement. Voilà. Et on a la chance à Poitiers d'avoir, du fait de l'université, aussi pas mal d'entreprises qui s'installent dans des domaines très innovants et qui font appel au service du cabinet Ten France. C'est très agréable de travailler pour elles.
Il y a un pôle d'innovation santé, non, près de l'hôpital ? Ou est-ce qu'il y a d'autres ?
Oui, il y a plein de structures chapeautées plus ou moins par des organismes publics ou parapublics qui permettent justement l'implantation d'entreprises ou de sociétés ou de laboratoires ou de pépinières d'entreprises dans des domaines d'innovation poussés. Ouais. Ça, c'est assez agréable.
Et quelle est votre dernière joie ?
Ma dernière joie ?
Oui, votre dernière joie.
Oula ! Ma dernière joie, ça va être un peu bête hein, ce que je vais dire, mais moi, ma dernière joie, elle n'était pas au cabinet, malheureusement, c'est pas un malheur d'ailleurs, mais la dernière soirée que j'ai passée hier avec ma femme et mes enfants, par exemple.
Ouais, c'est une joie qui revient assez souvent dans Fleur d'Avocat.
Oui, enfin, d'autant plus qu'hier, je suis allé chercher mes enfants chez mes parents qui étaient depuis plusieurs jours. Donc, je les ai retrouvés. On a passé une soirée tous les quatre avec le chien et le chat. C'était super.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de... Vous avez parlé de l'investissement pour le cabinet. Vous avez dit que vous ne travailliez pas nécessairement moins ici qu'à Paris. Enfin, je veux dire qu'en termes de rythme, finalement, votre gain, il est plus sur le temps perdu dans les transports ou autre, mais on n'a pas parlé de votre équilibre vie pro-vie perso. Comment est-ce que vous...
Eh ben on y gagne aussi, parce que quand vous partez du travail, vous
quand
êtes
vous gagnez une heure, oui.
Donc le temps que vous avez gagné à l'arrivée, vous le gagnez aussi le soir, dans l'autre sens. Ça, c'est aussi super.
Donc vous avez l'impression d'avoir un bon équilibre, en tout cas.
Ah mais moi, je suis hyper heureux dans ma vie. c'est parfait.
Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Alors là, je porte pas une robe aujourd'hui. Mais je porte, ça dépend. Souvent une cravate quand même, contrairement aux apparences aujourd'hui. Voilà.
Souvent une cravate.
Souvent une cravate.
Vous avez par exemple, Bernard Lamont avait dit que. Donc un avocat de Rennes avait dit qu'un jour il avait essayé de faire tomber la cravate et que ses clients l'avaient un peu rappelé à l'ordre. Vous avez des clients qui vous...
Non, moi mes clients ne portent pas de cravate justement. Je choisis mes clients... non, je plaisante. Non, moi c'est par goût, la cravate.
D'accord. Il y a encore des hommes qui aiment la cravate.
Non, c'est pas par convention parce que franchement... Je pense que c'est passé un peu de mode, hein, cette convention-là, justement. Certains, ça dépend de sa clientèle. Quand vous avez une clientèle de banquiers ou ce genre de choses, effectivement, ils sont toujours encravatés. Mais moi, ce n'est pas tellement mon cas. Comme je vous disais, moi, je suis plutôt tourné vers les entreprises un peu innovantes. Donc, ils sont plutôt en blouse blanche trouée par l'acide qu'en costume cravate. Mais moi, par goût, voilà, parce que j'aime ça.
Tout simplement.
Ouais.
Merci beaucoup, Alexis Baudelin.
Je vous en prie. Merci à vous. Merci beaucoup.